Cholem les Rèmes. 75 000. Traduit par Shmuel Redby pour Littérature Audio. Note du traducteur. La scène se passe dans un petit village russe ou polonais, peuplé en majorité de juifs. L'un d'eux possède un billet de loterie gagnant la somme faramineuse de 75 000 roubles. Le pouvoir d'achat de cette somme en 1902 représente plus de 3 millions d'euros. En série, vous dites que les malheurs arrivent en série. Chez vous, tout se résume par le terme « série ». Eh bien moi, je vous dis que depuis que le monde est monde et que les Juifs forment un peuple, ils n'ont jamais entendu parler d'une telle série, même en rêve. Si vous avez un moment, soyez gentil, rapprochez-vous un peu et ouvrez toutes grandes vos oreilles. Je vais vous raconter dans les moindres détails une histoire qui a trait à 75 000. Je sens ma peau qui se hérisse, j'ai comme une boule dans la gorge. Il faut que ça sorte, vous comprenez ou non? Mais j'ai une demande à vous formuler. Si je m'arrête au milieu ou si je me retrouve au pôle Nord, veuillez me rappeler où j'en étais, d'accord? Parce que depuis le mariage, je veux dire depuis l'histoire des 75 000, j'ai comme un bourdonnement dans la tête et il m'arrive souvent de ne plus me rappeler où je me trouve. Vous comprenez ou non, dites donc? Vous n'auriez pas par hasard une 75... Oups! Je veux dire, une cigarette? En bref et en court, où en étions-nous? Ah oui, à la question des 75 000. C'est arrivé cette année même, le 1er mai. Comme vous me voyez, j'ai gagné 75 000 à la loterie. Apparemment, il n'y a pas là de quoi s'émouvoir. Il y a des tas de gens qui gagnent. Il paraît que l'un des Nikolaïev a ramassé tous les deux 100 000. Un petit gars, comptable dans une boîte d'Odessa, a décroché 40 000 balles. Chut, silence là-dedans. Très bien, pourquoi pas. Il est vrai que le monde entier a les yeux posés sur les gros lots. 136 millions de sujets du tsar sont jaloux de nous, vous comprenez ou non? La vérité, c'est que les gains se suivent et ne se ressemblent pas. Le mien, c'est une histoire extraordinaire, un enchaînement étonnant d'événements, avatar après avatar, une histoire dans une histoire et une histoire sur une autre. Pour bien comprendre tout le déroulement de l'affaire, il faut s'accrocher solidement. Tout d'abord, je voudrais me présenter à vous. Qui suis-je? Non, je ne vais pas vous raconter que je suis un érudit de première, un Richard de la Haute ou un philosophe de renom. Je suis ce qu'on appelle un juif de tous les jours. J'ai une petite maison à moi, une bonne situation et une réputation passable dans mon petit village. Vous suivez ou non? J'avais même de l'argent, beaucoup d'argent. Combien? Oh, pour sûr, Brodsky en avait plus que moi, mais je possédais quand même plusieurs milliers de roubles. Alors, comme on dit chez vous, Dieu a mis un œil sur moi et m'a donné l'envie de m'enrichir d'un coup. J'ai essayé de faire une grosse affaire de vente de blé avec des garants à l'appui et je me suis retrouvé sans le sou. Par bonheur, rien de plus grave que ça. Vous pensez que le manque d'argent m'a poussé au désespoir? Vous me connaissez mal. Moi, je suis un type comme ça. L'argent, pour moi, ça ne compte pas plus que la cendre d'une cigarette. Pour moi, ça ne représente rien. Mais alors rien, rien du tout. L'argent, ça peut servir à quelque chose, je ne dis pas non. Mais de là à se battre, à menacer sa vie pour ça, ça non. Le problème, quand vous n'en avez pas, c'est que vous ne pouvez pas vous offrir le nécessaire, vous présenter comme il faut dans le monde et donner ou contribuer à la société comme vous le voulez. Croyez-moi, quand on s'adresse à un bourgeois pour lui demander 30 roubles en contribution aux dépenses de la ville et qu'à moi on ne me demande rien du tout, ça me pousse un peu au suicide. Vous comprenez ou non? J'aime mieux ramasser une calotte de la main de ma femme pour un manque de produits de première nécessité que de refuser une pièce à un mendiant alors que j'ai encore 40 copecks dans ma poche. Vous comprenez ou non? Je suis comme ça, moi. Dites, vous avez peut-être 40 co... Oups, je veux dire une allumette. En bref et en court. Où en étions-nous? Ah oui. Alors j'avais perdu tous mes écus et il ne me restait pas même une pièce de 40. Un beau matin, je m'adresse à ma digne épouse. « Vois-tu, Tsipora, nous sommes complètement nets. »«
Comment ça, nets ?»«
Nous n'avons même plus une pièce de 40. » Alors elle, en bonne ménagère, se met à pousser ses hauts cris.
« Malheur à moi, ténèbres sur mes yeux, catastrophe! Que dis-tu là, Jacob Joseph? Où est passé ton argent ?»«
Chut, du calme! D'où sors-tu que cet argent était à moi? Ce que Dieu donne, il reprend, comme disent les gens. Où as-tu vu écrit que Jacob Joseph devait habiter un appartement de 4 pièces, employer 2 servantes et se promener en habit dans les rues de la ville? Tu as des juifs qui crèvent de faim et qui n'en meurent pas pour autant. Si on devait toujours suivre les conseils du pourquoi et du comment, on n'irait pas loin. » Et je déblatère toutes sortes de dictons et d'adages de ce genre, et à la fin, elle me donne raison. Vous comprenez ou non? Et tout ça, c'est parce que ma femme, figurez-vous, je n'ai aucune raison d'avoir honte d'elle. Elle comprend, pour sûr. Pas besoin d'ergoter avec elle. Elle se calme et elle abonde dans mon sens. Elle explique que cela vient d'en haut, que Dieu va faire le nécessaire et qu'il faut s'en remettre à lui. Nous avons loué la maison à un voisin et nous sommes passés dans un petit local d'une pièce avec cuisine après avoir dûment congédié les 2 servantes. La courageuse épouse a retroussé ses manches et s'est mise elle-même au fourneau, et moi, je me suis intitulée Rabbi Jacob Joseph le mendiant. Comme on dit chez vous, j'ai pris l'état de mendiant. Enfin, d'accord, il y a de plus malheureux que moi. Après tout, une maison qui me rapportait quelque chose, ce n'est pas rien. L'ennui, c'est que chaque mois a 4 semaines au moins. S'il n'en avait que 2, j'aurais encore pu m'arranger avec les dépenses à un copec près. Mais maintenant, il y a 2 semaines supplémentaires où il faut prendre sur le mois à venir. C'est clair, il n'y a pas là matière à réflexion. Mais comme vous dites, vous autres, on s'habitue au malheur. En fait, il n'y a rien de plus peinard et de meilleur que la pauvreté. Je vous le dis, cela vous sauve de tout cassement de tête, paiement, prêt, emprunt, galopade et autres tohus et bohus. Or, il y a un Dieu au ciel et il me demande « Dis donc, Jacob Joseph, ça te plaît tellement de vivre dans le calme? Tu n'aurais pas par hasard un billet de loterie ?» « Allez, mon vieux, va ramasser 75 000 et va te faire voir. Vous comprenez ou non ?»« À propos, vous n'auriez pas par hasard un billet... Oups, je veux dire une cigarette ?»« En court et en bref, où en étais-je ? » ?»« Ah oui, au billet de loterie. » »« Vous croyez qu'un pauvre bonhomme de juif peut avoir comme ça en poche un billet de loterie ? Arrêtez votre char, dites !»« D'abord, s'il en a un... » C'est pour pouvoir le mettre en gage et retirer de l'argent dessus. Espèce d'idiot de Jacob Joseph, cours à la banque et va tirer de l'argent sur ton billet. En dernier lieu, il n'y a pas de banque chez nous en ville. Après, à quoi bon une banque? D'abord, les banques, ça fait banqueroute comme tout le monde. Le monde, ce n'est pas une foire et on n'y prend pas comme ça des mains des gens. Et puis, à qui donc pourrait servir mon billet? Vous comprenez ou non? Telles étaient mes pensées au moment crucial. Et à part ça, je ne pensais guère à rien au moment crucial. Au pire, je réfléchissais. Je me disais que j'avais un voisin qui habitait chez moi, un type qui prêtait à intérêt, un jeune homme bien honnête, champion en Talmud, rien à dire. Pourquoi ne pas mettre mon billet en gage chez lui? S'il m'en donnait 200, alors va pour 200, pourquoi pas? Donc, j'entre chez lui, Birnbaum qu'il s'appelle. Pani Birnbaum, peut-être vous me donnerez 200 balles sur mon billet de loterie. Je vous donne 200 balles sur votre billet de loterie. À quel intérêt vous me le faites? À quel intérêt je vous le fais? Est-ce que je sais, moi, à quel intérêt vous me le faites? Prenez ça à l'intérêt bancaire. Je vous le ferai à l'intérêt bancaire. En bref, nous parvenons à un commun accord. Je lui laisse mon billet en gage et il me prête les 200 roubles pour 5 mois. Vous comprenez ou non? Et toi, l'idiot de Jacob Joseph, va penser à lui faire signer un reçu selon quoi tu as mis en gage chez lui le billet numéro ci et ça de telle et telle série. Non, Au contraire, c'est lui qui me fait signer un reçu, selon lequel il m'a prêté 200 roubles pour 5 mois, contre un billet de loterie numéro ci et ça, de telle et telle série. Passé cette date, si je ne restitue pas l'argent, le billet devient sa propriété. En ce cas, je ne pourrai prétendre à aucun dédommagement d'aucune sorte. Vous comprenez ou non ? Moi, je me disais qu'il n'y avait pas grand risque. Soit je le remboursais avant l'échéance, soit je lui payais ses intérêts et il me faisait une rallonge, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça pourrait lui faire ? Vous suivez ou non ? Bon, le terme approche et moi, je ne rembourse pas. Les 5 mois passent et encore 5 autres, puis 2 ans et demi. Moi, je le paie régulièrement, ses intérêts. Je veux dire, une fois je paie, une fois je ne paie pas. Pas de risque. Quoi ? Il va aller vendre mon billet ? Pourquoi irait-il vendre mon billet ? Telles étaient mes pensées au moment crucial. Et peut-être ne pensais-je à rien au moment crucial. En attendant, tout va mal. Les affaires ne marchent pas. Chaque mois a des tas de semaines en trop. Rien à se mettre sous la dent, quoi faire ? Comme on dit chez vous, au moins que Dieu donne le pain, les malheurs, on les trouvera tout seuls. Et cela continuait comme ça jusqu'à la Pâque. Arrive la fête. Dieu m'envoie une petite affaire. J'achète des charrettes de blé dur et je les revends avec bénéfice. Je passe une de ces fêtes. Même Brodsky en personne, c'est un chien affamé à côté de moi. Ce n'est pas rien, ça. Non seulement vous n'avez pas de dette, mais en plus, vous avez quelques centaines de roubles bien à vous. Mais quel idiot ce Jacob Joseph ! Marche, allons. Va rembourser les 200 roubles et récupère ton billet de loterie, voyons. Non, rien ne presse. Birnbaum ne va pas s'envoler avec mon billet. Non, je vais laisser passer la fête et après ça, je le rembourserai, intérêt compris, et je reprendrai mon billet. Telles sont mes pensées au moment crucial. Et peut-être qu'au moment crucial, je ne pense à rien. Vous comprenez ou non ? Bon. J'achète des sacs de grains. Je les dépose dans une grange. Dieu fait un miracle et on casse le cadenas de la porte. C'est le 30 avril et la loterie tombe le 1er mai. Et voilà qu'on me vole mes sacs. Je me retrouve sans rien. Je m'adresse à mon épouse. Tsipora, tu sais quelles sont les nouvelles ? Nous voilà encore une fois tout net. Comment ça, tout net ? Nous n'avons plus un seul sac de grains. Où sont passés les sacs ? On les a pris de la grange. Alors, bien évidemment, elle se met à hurler comme seules les femmes savent le faire. Je la calme. Chut, silence, Tsipora, ne crie pas si fort. Tu n'es pas fille unique chez Dieu. Tu crois vraiment que le toit a pris feu et que nous sommes nus comme des vers ? Nous valions mieux que ça le jour de notre naissance, d'ivoire. Pas mal trouvé la métaphore, qu'elle réplique. Mais c'est une raison pour voler les sacs, ça. Quel rapport ? Écoute-moi bien et souviens-toi de ce que je te dis. On retrouvera les sacs. Et comment veux-tu les retrouver ? Les voleurs vont te les rendre juste parce que tu t'appelles Jacob Joseph ? Ils n'ont rien de mieux que ça à faire ? Oh, ce que tu peux être bête ! Ce dont Dieu est capable, les humains n'en ont pas même la moindre idée. En attendant, les sacs avaient disparu sans laisser d'adresse. Quels sacs ? Combien de sacs ? Je parlemente avec la police. Je cherche partout. Je fouille les trous de rats. Mais c'est comme courir après la neige de l'an dernier. Vous comprenez ou non ? Haro sur rien du tout, la tête basse, la bouche sèche, le vague à l'âme. Je suis là sur la place du marché, à côté de la bourse des valeurs municipales, je veux dire la pharmacie locale. Tout d'un coup, une pensée me traverse l'esprit en cette fin de matinée sur le coup de midi. Mais c'est aujourd'hui le jour du jugement dernier, le 1er mai, la loterie. Comme dit le verset, la main de Dieu ferait-elle défaut ? Il n'y a rien de plus grand ni de plus fort que notre Dieu. S'il le veut, il peut nous rendre heureux, moi et ma famille. Mais le souvenir des sacs volés se rappelle à moi et j'en oublie le 1er mai et mon billet de loterie. Je recommence mes recherches, je cours après des indices et comme ça, jusqu'au lendemain matin, le 2 mai. Je suis fourbu, je n'ai rien mis à la bouche depuis près de 2 jours. Mon cœur va flancher. Vous comprenez ou non ? Je rentre à la maison et ma femme se jette sur moi. « Faites laver les mains et avale quelque chose. Ça suffit comme ça avec les sacs. J'en ai par-dessus la tête de tes sacs. Qu'ils aillent au diable. Il faut se suicider pour ces fichus sacs. Avec les sacs, sans les sacs, quelle différence ? Il n'y a plus que des sacs, des sacs, des sacs, et encore des sacs, rien que des sacs, et toujours des sacs. » Je lui réponds, « Dis donc, ça suffit peut-être comme ça avec tous ces sacs. Moi, j'en ai la tête cousue de tes sacs. Ça va continuer longtemps, des sacs, des sacs, des sacs. » Vous entendez ou non ? Peut-être vous pourriez me refiler un sac. Oups, une cigarette, quoi. En bref et en court, où en étais-je ? Ah oui, les sacs. Au diable les sacs, on ne va quand même pas en faire une maladie. Bon, je me lave les mains et je m'assois pour manger. Aïe, ouille, la nourriture ne passe pas. Mais qu'est-ce que tu as, Jacob Joseph ? Quel chat noir as-tu rencontré sur ton chemin aujourd'hui ? Je me le demande moi-même. Je me lève et je vais m'étendre un moment pour me remettre. Et boum ! À ce moment même, on apporte le journal et le courrier. Allez, gros imbécile, ouvre le journal. Peut-être ton billet a gagné le gros lot. Je ne me souviens même plus si nous sommes le 2 mai, le 22 juin ou le 222 poivrier. Vous me suivez ou non ? Je prends le journal et entreprends ma lecture comme il sied aux gens cultivés. Les nouvelles sont bonnes. On a tiré, on a pendu, on a poignardé. Les Anglais ont égorgé les bougs et les bougs ont estourbi les Anglais. Cela me rentre dans une oreille et en sort par l'autre. Que le diable emporte les Anglais et les bourgs ou qu'ils me rendent mes sacs. Telles étaient mes pensées au moment crucial. Et peut-être qu'au moment crucial, je ne pensais à rien du tout. Je tourne les pages, la deuxième, la troisième, et voilà la liste des billets gagnants. Je me dis que peut-être mon billet a gagné quelques 500 roubles. Vu l'état de mes sacs, cela m'aurait rudement arrangé. Je passe sur les 500. Rien. Les 1000. Que dalle. 5000, 8000, 10 000, évidemment, pot de balle, et ainsi de suite. J'arrive comme ça aux 75 000 et je reçois comme un coup de massue sur la tête. Numéro 2289, série 12. J'aurais juré que c'était là mon numéro. Mais comment savoir ? Et puis, comment un zéro comme moi ramasserait-il une pareille aubaine ? Je regarde les chiffres un à un, c'est bien là mon numéro. Je veux me lever. Pas moyen, collé au canapé. Je veux crier « Tsipora !» Je reste muet. La langue collée au palais. Je ramasse mes dernières forces, je me lève et m'approche de mon secrétaire. J'ouvre mon carnet. Oui, c'est bien là mon numéro. Le 2289, série 12. Les mains tremblent, les dents claquent. Tsipora, tu sais quoi ? On a retrouvé les sacs. Elle me regarde comme si je m'étais évadé d'un asile d'aliénés. Qu'est-ce que tu bafouilles ? Tu sais au moins ce que tu bafouilles ? Je t'affirme, Dieu nous a rendu nos sacs, avec indexation et intérêt. Notre billet a gagné un plein chapeau de fric. « Tu parles sérieusement ou tu te moques de moi, Jacob Joseph ?»« Comment ça, je me moque de toi ? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. On a gagné !»« Combien qu'on a gagné ?» Elle me regarde droit dans les yeux d'un air de dire « Attention à toi si tu t'es foutu de moi !»« À ton avis, combien ? Est-ce que je sais, moi ? Eh bien, quelques centaines de roubles, non ?» Et pourquoi pas quelques milliers ? Chez toi, combien ça veut dire quelques ? 5, 6, 7 tout plein ? Tu ne brûles pas. Quoi ? 10 000 ? Fais un effort, que diable ! 15 000 ? Encore un effort.
20 000 ? 25 000 ?
Encore un peu.
Mais arrête de brutaliser les gens, enfin ! Combien ?
Cipora, donne-moi la main. Nous avons gagné, comme des bourgeois, comme des nobles, une somme dont tu n'as pas la moindre idée.
Mais combien, combien ? Ça suffit d'égorger la population comme ça ?
Une fortune, un trésor, 75 000 roubles. Tu entends, Cipora ?
75 000 ! Dieu soit loué !
Et elle saute sur place, se met à courir dans toute la maison en se tordant les mains et s'écrie
« Béni soit ton nom, merci à toi d'avoir porté les yeux sur nous et de nous avoir donné le bonheur. Merci à toi, ô Gottmein. Dis donc, Jacob Joseph, tu es sûr de ne pas te tromper ? Dieu soit loué, Dieu de bonté et de miséricorde. »
En bref, c'était la joie au foyer. Elle continue.
Nos amis vont se réjouir, nos ennemis vont en crever.
Quoi, c'est une bagatelle, une somme pareille ?
Combien dis-tu, Jacob Joseph ? 75 000 ?
75 000, Tsipora, donne-moi mon manteau, je dois sortir.
Comment ça sortir ?
Comment ça sortir ? Je dois récupérer mon billet qui est en gage chez Birbaum. Il ne m'a pas donné de reçu. J'ai eu à peine fini ma phrase qu'elle passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle m'attrape au collet et me lance.
Jacob Joseph, tu ne cours pas tout droit chez lui. Tu dois d'abord réfléchir à ce que tu vas lui dire. Fais attention, 75 000 roubles.
Tu parles comme une femme, tiens. Et alors, quoi 75 000 ? Quoi, je suis un gamin ?
Écoute-moi bien, réfléchis d'abord. Prends conseil d'un ami sûr. Ne cours pas tout droit chez lui. Je ne te laisse pas partir.
En court et en bref, vous savez bien que lorsqu'une femme s'obstine, elle aura toujours gain de cause. Je me suis adressé à Lémy, un copain, et je lui ai tout raconté. Au terme du récit, il a abondé dans son sens à elle et il a ajouté que 75 000 roubles, on ne plaisante pas avec ça. En attendant, le billet couche au fond du tiroir de l'autre, et moi, je n'ai pas de reçu. L'argent, c'est synonyme de mauvais penchant. Peut-être que l'autre va se dire que cela vaut 75 000 balles. Vous suivez ou non ? Finalement, moi aussi, ils me font plonger dans la déprime et je commence à me ronger le sang. Alors, conseil de guerre. On décide que j'emporte avec moi les 200 balles. Ces dernières font leur apparition en une seconde pour la bonne raison qu'un gain de 75 000 vous met immédiatement dans la position d'un emprunteur sûr. Un autre m'accompagnera, mais il se tiendra derrière la porte. Moi, j'entrerai chez Birnbaum. Je lui parlerai de ci et de ça, et je rembourserai mon prêt, y compris les intérêts, et je ramasserai mon billet. De deux choses l'une, soit il rend le billet et bonjour chez vous, soit il refuse, et alors j'ai un témoin. Vous comprenez ou non ? Moi, je me dis que tout ça marchera, à condition que Birnbaum ignore que le billet a gagné les 75 000. Mais si, par hasard, lui aussi, il lit le journal et sait que le billet vaut ses 75 000, comment réagir s'il me fait le coup de la vieille de Cholet-Malérem avec la soupière ? Je t'ai rendu ton billet depuis longtemps, et puis le tien n'est pas le numéro gagnant, et à part ça, tu ne m'as jamais donné de billet en gage. Vous entendez ou non ? Mais Tsipora continue.
Dieu fait peut-être encore des miracles, et il ignore encore le gain. Souviens-toi, Jacob Joseph, il s'agit là de 75 000 roubles. Attention que rien ne se voit sur ton visage, surtout pas le nombre 75. De toute façon, rappelle-toi que la vie vaut beaucoup plus que 75 000 multiplié par 75 000.
Ainsi parle mon épouse, tout en me tenant les mains et en me faisant jurer que je resterai calme et débonnaire.
Mais comment voulez-vous rester calme quand le cœur se retourne dans votre poitrine et que votre cervelle est pleine de marasmes et de remords ?
Comment toi, Jacob Joseph, espèce de buse, comment as-tu mis en gage un billet qui vaut 75 000 roubles chez un vulgaire Birnbaum, un étranger dont tu ne prends pas même un reçu, un mot écrit sur un bout de papier. Vous comprenez ou non? Dites, vous pourriez me refiler un mot écrit sur... Oups, je veux dire une cigarette. En bref et en court, où en étais-je? Ah oui, à Birnbaum. Moi, je me dis... Après tout, il vaut mieux que le Birnbaum ait déjà lu le journal, qu'il ait déjà eu connaissance des 75 000 en même temps ou même avant moi, et que j'entame la conversation avec lui en ces termes. « Bonjour, mon bon ami, monsieur Birnbaum. Bonne année. Quelle nouvelle? Où est mon billet, cher monsieur? Quel billet? Le billet 2289, série 12, que j'ai laissé en gage chez vous. Et lui, qui va me regarder avec des yeux de chacal? Telles sont les idées qui me passent par la tête en ce moment. Une boule dans la gorge, un creux au cœur, la bouche sèche, la respiration absente. En bref, j'arrive chez Birnbaum. Où est Birnbaum? Il dort. Il dort, cela veut dire qu'il n'a ni le rêve ni la solution. Dieu soit loué. J'entre chez lui et je tombe sur sa femme dans la cuisine. Feigele, qu'elle s'appelle. Il y a de la fumée partout, le fourneau marche au maximum et une odeur fétide emplit l'atmosphère. Feigele m'invite à entrer dans la salle principale. « Bienvenue à toi, cher invité, honorable Jacob Joseph. Pourquoi te fais-tu si rare ?» Elle m'installe à un bout de table. « Pourquoi je me fais si rare ? Je me le demande moi-même. » Je la regarde au fond des yeux et je cherche à deviner si elle sait déjà. Ou peut-être non. Il me semble bien que non, à moins que si... « Qu'est-ce que tu as, Rabbi Jacob Joseph ?»« Moi ? Quoi ? » Tu as sans doute entendu parler de mon manque de veine. Quel manque de veine? Quoi? L'histoire des sacs volés? Ah, ça c'est de la vieille histoire. Je croyais que tu parlais d'une nouvelle affaire. Une nouvelle affaire. Évidemment, elle fait allusion aux 75 000. Je la regarde encore au fond des yeux et ne découvre rien là-dedans. Peut-être une tasse de thé, Rabbi Jacob Joseph? Je vais faire mettre de l'eau à chauffer jusqu'à ce que mon mari se réveille. Une tasse de thé, tiens, c'est une bonne idée. Et je sens mon cœur qui flanche. Ma cervelle vacille. Je manque d'air. La maison m'empeste. J'ai la bouche sèche. Je sue à grosses gouttes. Et Feigele qui gazouille. Je vous parie un repas brûlé à deux que je ne comprends pas le moindre mot de ce qu'elle me dit. Ma tête est tout entière dans la chambre où Birnbaum repose en paix. Vous me suivez ou non? Pourquoi ne bois-tu pas? Qu'elle demande, je veux dire Feigele. Mais si, mais si. Et je tourne ma cuillère dans ma tasse comme un dératé. Mais ça fait une heure que tu remues ton thé et que tu ne bois pas, remarque Feigele. Je ne bois pas de thé froid, chaud, chaud. Je veux dire, j'aime que le thé refroidisse tout chaud, enfin tout frais, je veux dire. Enfin qu'il refroidisse, quoi. Tu as l'air d'avoir des soucis, Rabbi Jacob Joseph. Tu as l'air tout drôle. Tu ne remarques même pas ce que tu dis. Tu perds la tête comme ça pour des sacs volés. On les retrouvera. J'ai entendu dire qu'on avait trouvé des indices. Ah, voilà mon mari qui se réveille. Il va venir tout de suite. L'intéressé fit son apparition, les yeux à demi fermés et un bonnet de nuit sur la tête. Il se masse les paupières et m'observe. « Comment va l'ami juif, ce bon Jacob Joseph ?»« Il sait ou il ne sait pas. Ma première pensée a été « Il sait ou non ?» J'ai l'impression que non. À moins que si... Comment veux-tu qu'il aille? Tu as dû entendre parler de mes sacs, non ?» Oh, cette histoire-là, elle a une barbe longue comme ça. Raconte-moi quelque chose de neuf. Dis donc, Feigele, tu n'aurais pas un peu de confiture? J'ai la bouche un peu sèche d'avoir tant dormi. Et il accompagne sa requête d'un ample bâillement. Bon, s'il veut de la confiture, ça signifie qu'il ignore tout. J'entame avec lui une conversation complètement décousue. J'ai des papillons dans le ventre et une boule dans la gorge. Je me vois déjà en train de me rouler par terre en criant Au secours, mes frères, 75 000. Mais Dieu a pitié de moi et me donne l'idée de mettre la question des intérêts sur le tapis. Cher monsieur Birnbaum, j'ai le bonheur de pouvoir vous payer vos intérêts. Je veux dire, les intérêts sur mon billet de loterie. Oh, en voilà une bonne nouvelle. Et il se tape une pleine cuillerée de confiture. À combien se montent les intérêts? Tu veux juste savoir le compte ou tu veux vraiment payer? Non, non, j'ai bien l'intention de rembourser. Faïguélet, apporte le carnet. À ces mots, la vie renaît en moi. Mon homme ne se doute de rien. Alors, s'il te plaît, mon bon monsieur Birnbaum, et l'obligeance d'inscrire dans ton carnet que tu as reçu de ma main les intérêts sur le billet numéro 2289, série 12. Écris, Faïguélet, sur le billet 2289, série 12. Il ne commence même pas à se douter du début du commencement, me dis-je. Je continue de l'entortiller au sujet du billet. Mais dis donc, à part les intérêts, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec le billet lui-même? Pour quelle raison tu me poses cette question? Et il louche sur moi de ses deux petits yeux perçants. Son regard m'a fendu le cœur en deux, vous comprenez ou non? Moi, je me reprends tout de suite. Mon bon monsieur Birnbaum, c'est parce que ce billet, il commence à me coûter cher. Tu ne pourrais pas me prendre 1% de moins à l'avenir? Après tout, nous sommes voisins et amis, non? Non, tout ce que tu veux, mais ça, non. Rembourse-moi mon argent et va hypothéquer ton billet ailleurs. Quoi? Aujourd'hui même? Immédiatement, si ça te chante. Tiens, prends ton argent. Et je jette devant lui les 200 roubles. Faïguélet, attrape ça. Il trempe son nez dans sa tasse de thé et se rince la bouche avec une cuillère de confiture. Puis une deuxième et une troisième et encore une autre. Moi, je meurs d'envie de revoir mon cher billet et lui, il bouffe de la marmelade. Je boue intérieurement, mais quoi faire? Je ne peux pourtant pas me conduire comme un cochon. L'autre a toujours le nez dans la confiture, eh bien, à sa santé. On ne gagne jamais rien à presser les gens. Alors j'attends qu'il termine le pot, vous suivez ou non? Vous pourriez pas me refiler une cuillère de conf? Oups, je veux dire une cigarette? En court et en bref, où en étions-nous? Ah oui. Alors, mon ours mal léché achève son pot de confiture, se lèche les babines, s'essuie la bouche et s'adresse à moi. Mon cher Jacob Joseph, tu m'as rendu mon argent, tu m'as payé mes intérêts. Eh bien, je dois te rendre ton billet. Ça m'en a tout l'air. Le problème, c'est que je ne peux pas te rendre ton bien aujourd'hui. La phrase n'est pas encore achevée que je sens mon cœur qui se fend en deux. Je tombe du septième ciel, d'un coup, par terre. Je ne sais comment je me suis retenu. De quoi, monsieur Birnbaum? Pourquoi ne peux-tu pas me rendre mon billet? Parce qu'il n'est pas en ma possession. Comment cela, pas en ta possession? Il se trouve à mon compte à la banque. Je me sens un peu mieux. Je sombre dans de profondes pensées. Il m'observe. Pourquoi tu réfléchis comme ça? Pour rien. Je me demande comment va faire la chatte pour passer la rivière. Il ajoute. C'est pourtant bien simple. Demain, je vais me rendre en ville et je te rapporte ton billet. Bon, c'est d'accord. Je me lève pour prendre congé et je me dirige vers la porte. Mais je m'arrête. Dis donc, Birnbaum, que penses-tu de mes talents de commerçant? L'argent, je te l'ai remboursé. Les intérêts, je te les ai payés. Le billet, tu l'as, toi, dans la poche. Donne-moi au moins un reçu pour le billet. Pourquoi as-tu besoin d'un reçu? Je ne t'inspire pas assez confiance pour 200 malheureux roubles. Tu as peut-être raison, toi aussi. Je me dirige vers la porte et fais encore demi-tour. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des affaires. Quand on a un billet chez quelqu'un, on doit avoir un reçu. Écoute-moi, monsieur Birnbaum, donne-moi mon reçu. Pourquoi refuses-tu? Birnbaum se lève d'un bond, marche vers sa chambre et appelle sa Faïguélet. Moi, je sors de mes gonds. Oui, monsieur, je vois bien pourquoi tu appelles ta Faiguelet. C'est pour qu'elle envoie sa servante acheter le journal pour voir si le billet n'a pas gagné. Eh bien, je vais te simplifier la chose, moi. Sache que mon billet a gagné la forte somme. Et voilà mon bonhomme qui passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pas possible. Dieu te bénisse. Et combien il a rapporté? Beaucoup, beaucoup, grâce à Dieu. Je souhaite à tout le monde un gain pareil. Et c'est justement pour ça que je veux mon reçu. Je te l'ai dit, Dieu te bénisse, même pour 200 000. Félicitations. Alors, combien qu'il a gagné? Pourquoi as-tu peur de me le dire? Monsieur Birnbaum, pourquoi tergiverser? Le billet ramasse 75 000 roubles. Il se trouve chez toi. J'ai remboursé la dette. J'ai payé les intérêts. Rends-moi mon billet. Tu prétends que le billet est en banque? Alors donne-moi un reçu et qu'on en finisse. Que vous dirais-je? Je vois mon bonhomme avec les traits défaits et les yeux exorbités. Je le prends de côté et je lui tiens les mains. Mon cher ami, aie pitié de moi et de toi-même. Dis-moi ce que tu veux, on s'arrangera. Moi, je n'en peux plus. Dis-moi combien tu veux et donne-moi mon reçu. Sans reçu, je ne quitte pas la place. C'est idiot, mais c'est comme ça. On parle quand même de 75 000 roubles, non? Il est abasourdi. Finalement, il prononce « Nous allons prendre conseil auprès d'autres personnes. Leur décision sera la nôtre. » À quoi bon prendre conseil d'autrui? Nous serons nos propres juges. Écoute, Birnbaum, aussi vrai que tu crois en Dieu, dis-moi combien tu veux. Pas d'entourloupette et pas de scandale. Non, l'avis d'autrui. Ce qu'ils diront, nous le ferons. Je vois que je n'arrive à rien avec lui. J'ouvre la porte et j'appelle mon type. Zaïdel, tu peux en aller. Le nommé Zaïdel prend ses jambes à son cou et va raconter à toute la ville, au son des tambours, que le billet de Jacob Joseph a gagné 75 000, que le billet est chez Birnbaum et que Birnbaum refuse de le rendre. Vous suivez ou non? Il n'en fallait pas plus. En moins d'une demi-heure, la maison de Birnbaum grouille de monde. La foule se presse dans la rue, une vraie foire. « Jacob Joseph, Birnbaum, le billet, 75 000 !» Tout le monde était de mon côté. Les gens montraient le poing, frappaient sur la table et menaçaient de mettre la maison à sac avec coups et blessures et gifles à l'appui. Finalement, on s'en remet au verdict du maire. Tout le monde se précipite chez lui. Le maire de chez nous, voyez-vous, c'est un homme simple et tranquille qui a horreur de jouer les juges de paix. Mais quand tout le village lui tombe dessus et menace de mettre le feu à sa boutique, alors il n'a plus tellement le choix et il se résigne à patronner la noce. Nous signons tous les deux en quoi nous acceptions son verdict. Birnbaum accepte même de faire passer le billet au nom du maire et on se met tous d'accord pour retirer le billet le lendemain. Et moi, je m'engage à payer à Birnbaum la somme que fixera le juge. Vous pensez qu'on arrive à la fin de l'histoire? Ta ta ta, la noce ne fait que commencer. Comprenez que par ailleurs, moi, j'ai un associé au billet. Vous avez déjà vu un juif avec un billet entier à soi, vous? Mon associé, mon alter ego, se nomme Enig et il réside dans un petit village, non loin du nôtre. C'est lui qui a placé le billet en gage chez Birnbaum. Je veux dire le contraire, c'est par mon intermédiaire que mon alter ego, Enig, a placé le billet en gage chez Birnbaum. Vous comprenez ou non? Non? Bon. Je dois d'abord vous raconter une autre histoire qui se cache tout au fond de la première. C'est nécessaire si vous voulez comprendre toute l'affaire. En bref et en court, où en étais-je? Ah oui, à mon frère Enig, enfin comme mon frère, mon alter ego. Que vous dirais-je? Ce n'est pas beau de s'apitoyer sur son propre frère, sur son autre soi-même. Comme on dit chez vous, mouche-toi et étale ça sur ta figure à toi. En fait, c'est un rien du tout, un pot Christ. Nous ne nous estimons pas tellement l'un et l'autre. Vous comprenez ou non? Écoutez un peu ce que j'ai fait pour lui et comment cela m'est retombé sur la tête. Je peux m'enorgueillir d'avoir été celui qui l'a fait tenir sur ses deux pattes. Si on peut lui donner le titre d'être humain, c'est d'abord grâce à Dieu et ensuite grâce à moi. Je n'ai pas de quoi me vanter, voyez-vous ? Supposez, par exemple, qu'il m'envoie un billet de loterie et me demande de le revendre, je veux dire, de l'hypothéquer pour la somme de 200 balles et de lui envoyer l'argent. Ai-je le droit de le faire ou non ? Allez lui demander « Quel billet ? De quoi un billet ?» C'est à vous de vous taper le billet, de l'assurer et de payer les intérêts dessus. Qu'est-ce que ça peut lui faire à lui ? Et quand Dieu intervient et fait gagner le billet, qui se cogne la tête contre Birnbaum ? Qui fait une attaque cardiaque avant d'arriver à un accord ? Et maintenant que l'affaire touche à son terme, voilà mon alter ego qui demande « Qui t'a prié de t'évanouir pour mon billet ?» Vous l'entendez ? Dites, que pensez-vous de l'argumentation de ce grossier personnage ? Je me suis mis dans une colère, j'en avais le cœur brisé. Je lui rétorque « Dis donc, grossier personnage, qui dit que le billet t'appartient ?»«
Et à qui donc il serait, hein ?»«
À qui de droit ? De toute façon, maintenant, il faut sauver le billet des mains étrangères. On ne plaisante pas avec 75 000 roubles. » »« Vous comprenez ou non ? Ai-je mérité qu'on me fasse tout ce scandale, qu'on frappe sur les tables, qu'on casse les bancs ? Vous m'entendez ? Quand les gens disent « Avec une queue de cochon, on ne fait pas de chapeau mou », ils doivent avoir raison. Bon, je réfléchis. Pourquoi me disputer avec mon propre frère ? 136 millions de sujets sont jaloux de nous et pendant ce temps, les frères se battent. Le billet est à moi. Non, il est à moi. C'est dégoûtant. Le plus urgent, c'est de sauver le coupon, vous ne croyez pas ? Mais allez discutailler avec un grossier personnage. Je parle de Hennig, évidemment, sauf votre respect. Si, au moins, il m'avait prévenu d'avance qu'il ne s'agit pas là d'un billet comme les autres, mais d'une véritable arête dans le gosier, j'aurais su tout de suite quoi faire. À quel moment mon frère Hennig a-t-il eu la bonne idée de planter son arête dans mon gosier ? Bien, bien après que le billet a été inscrit au nom du maire et que l'officier chargé de l'enquête ait déposé à la banque un ordre de saisie, tout en nous tenant à l'œil les uns et les autres. En bref, le flic nous convoque les uns et les autres pour qu'on lui raconte en détail l'histoire du billet. Il s'adresse à moi. D'où tenez-vous ce billet ? Et comment Birnbaum est devenu parrain ? Que signifie l'histoire du maire ? Une vraie noce, vous entendez ou non ? Vous pouvez demander à juste titre qu'est-ce que la police a à voir là-dedans ? En quoi toutes ces salades la regardent-elles ? En fait, là se trouve l'arête dans le gosier. Une de ces arêtes ! Pas moyen ni d'avaler ni de recracher. De quoi s'étrangler ? Et vous voulez savoir d'où elle vient, cette arête ? Elle a pour origine un moine, un prêtre. Dans la contrée de mon alter frère Hennig, il y a un curé, un abbé, est-ce que je sais ? Qui fait des affaires sur parole avec mon second moi-même depuis des années. Il emprunte chez lui et lui revend du matériel. Ils vivent en bonne entente tous les deux, rien à dire. Vous m'écoutez ou non ? Un beau jour, au dire de notre abbé, allez savoir si c'est vrai ou non, mon frère arrive chez lui et lui parle ainsi. Mon petit père, j'ai besoin d'une petite charité de 200 balles. Ça va être la fête chez nous.
Et comment pourrais-je trouver cela pour toi alors que je manque d'argent moi-même ? Demande l'abbé.
Et mon frère qui réplique du tac au tac : Allez, pas d'histoire, j'ai besoin de 200 roubles ou je m'asphyxie. Quel drôle de juif tu fais ! Je n'ai pas un sou pour moi. Si tu veux, j'ai un billet de loterie. Fais-en de l'argent si tu peux. Vous suivez ou non ? Or, il s'agit justement du fameux billet gagnant. Je veux dire des 75 000. En tout cas, c'est ce qu'affirme l'abbé en jurant par tous les saints. En bref, notre curé arrive au galop chez mon alter de frère et déblatère. Comme ci et comme ça, il paraît que le billet a gagné une jolie somme. Oui, c'est ce qu'il paraît, il a gagné. Alors ?
Quoi alors ?
Et ça continue comme ça, l'un dit oui, l'autre dit non. Le premier parle d'une cruche, le second d'un tonneau. Mais quelque chose d'écrit, ça, non. Rien, ni chez l'un, ni chez l'autre. En attendant, c'est mon frère qui a le billet en main, et le curé, il n'a que de la crimonie. En bref, que vous dirais-je? En fin de compte, l'autre, l'abbé, je veux dire, lui demande juste de lui refiler quelques milliers de roubles en guise de dédommagement. Je sors de mes gonds. D'accord, aîné, grossier personnage, quelques milliers de balles et cloue-lui le bec. Et qu'il bouge du milieu. Énigre chigne. Mais il n'a droit à rien pourtant. J'ai acquis le billet en bonne et due forme et il me l'a vendu selon toute règle verbale et tacite. C'est une histoire qui remonte à près de 3 ans. Tout aurait dû rentrer dans l'ordre sans nos braves juifs à nous et surtout ceux de la petite bourgade de Pichia-Bébé, écrit à grand-papa qui porte bien son nom entre nous. C'est une ville de cafeteurs que le soleil de l'été les dévore tous. Ces braves gens accourent chez l'abbé, ils lui démontrent par A plus B qu'il peut faire un foin du diable, qu'on l'a roulé comme un novice, mais qu'il peut encore foncer à la grande ville et aller raconter son affaire au procureur impérial. Il devra expliquer que les Youpins lui ont extorqué par ruse un billet de loterie qui vaut 75 000 roubles et qu'il refuse de le lui rendre. Vous comprenez ou non? Bon, soyons brefs. L'abbé n'a pas lésiné et a fait tout ce qu'il fallait, même un peu plus. C'est pour ça qu'on a mis les scellés sur le billet. Lentement mais sûrement, voilà une fameuse salade russe en préparation. Mais de plus, vous avez maintenant une arête dans le gosier sous forme de monsieur l'abbé. Au début, mon frère avait conclu avec lui pour 10 000, ensuite pour 15 000, mais à la fin il s'est rétracté. On l'avait tellement entortillé qu'à la fin, il ne savait plus quoi réclamer. Bien, nous en avons terminé avec la rette dans le gosier. Vous m'entendez ou non? En bref et en court, où en étions-nous déjà? Ah oui, la rette dans le gosier. Donc Dieu nous avait envoyé une arête comme aucun gosier n'en avait jamais vu. Mais le Créateur, comme on dit chez vous, d'une main il frappe et de l'autre il guérit. Il se trouva de braves gens, de vrais frères, d'honnêtes parrains, de bons amis, en bref des gens de bonne volonté. Ils ont galopé à droite et à gauche, ils ont couru de-ci et de-là. Ils ont fait l'aller-venue entre mon frère et le curé, entre le curé et mon alter ego, entre Birbaume et moi, et vice-versa, entre nous deux et mon frère, entre nous trois et l'abbé. Ils ont tourné en rond, foncé tout droit, parlementé à gauche, négocié à droite, et finalement, ils ont amené tout le monde à un accord. Un accord? D'accord. Mais quel accord? Avec de la justice, on ne prépare pas le dîner. Mon frère s'adresse à l'abbé dans un mélange de russe, d'ukrainien et de yiddish, et lui dit à peu près comme ça. Votre sainteté, verdict ou pas, il vaut mieux partager et bouche cousue. Et l'autre qui lui répond, partager avec toi, mon frère et mon fils, avec moi, mon père, et à votre santé. Et mon alter ego lui tend un petit verre. Tout le monde lève le sien, on avale l'eau de vie et on s'embrasse. Tout va donc pour le mieux. On se sent satisfait. Enfin, dans une certaine mesure, vu que chacun de nous a eu, à un moment ou l'autre, les 75 000 entre ses doigts et les a laissés filer. Sss ! Vous voulez savoir comment ça ? Bon, d'abord, moi, je ne compte pas. Je n'aurai pas les 75 000. On ne pleure pas sur le pot à lait perdu. Mais une supposition. Qu'aurait donc fait Enig si je ne lui avais pas annoncé par télégramme que le billet avait gagné les 75 000? Tout autre à ma place aurait pincé les lèvres et observé le commandement « Et tu la fermeras ». D'abord, ce n'est pas mon frère. Je ne connais pas ce Enig et à part ça, j'ai revendu le billet. Ou bien, je l'ai mis en gage chez Birman et je ne l'ai pas racheté. D'ailleurs, chez ce dernier, on peut trouver un papier signé de ma main indiquant que j'ai laissé chez lui le billet numéro machin série chose. Vous comprenez ou non? Mais cela ne m'est même pas venu à l'esprit, bien que cela m'eût sauvé de bien des ennuis. Tout ça parce que chez moi, l'argent n'a pas grande importance. C'est quoi l'argent? Vanité des vanités. Et comme dit ma femme, tant que Dieu aide et nous donne la santé et tout le reste, rien du tout l'argent. Bien que, de notre côté, 75 000 C'est tout de même agaçant, vous comprenez ou non? Maintenant, prenez Birbaum. Birbaum, c'est un nourrisson qui n'a pas encore pêché. Lui, il a laissé partir les 75 000 de sa propre volonté. Et ce, parce que c'est un garçon honnête qui ne veut pas profiter du billet de son prochain. Il veut d'abord prendre la vie d'autrui et s'y conformer. Vous suivez, non? Lui, il tenait en main le couvercle de la bonne marmite. Il avait ma signature comme quoi, si je ne le remboursais pas sur le billet numéro 6, série ça avant telle date, alors bon. Vous comprenez ou non? Bon, le billet s'en va et il gagne exactement les 75 000. Dites franchement, il n'y a pas de quoi vous faire éclater la vésicule biliaire des fois? Que nous reste-t-il là-dessous? Deux âmes en peine à qui on a presque arraché de force 75 000 balles. La troisième âme malade, c'est mon frère, Enig, le malheureux. Il tourne en rond comme un dépossédé, comme un coq à qui on a coupé la tête. Surtout que lui, dans le partage, il a reçu le moins de tout le monde. Lui qui a pour usage de ramasser au moins 75 000 roubles à chaque tirage de loterie. Et il pousse ses hauts cris. « Mais que me veut-on? On me dévalise! Donne à ton frère, donne à l'abbé, donne à Birbaum. Ils veulent faire de moi un mendiant. Voilà. » Vous comprenez ou non? Le quatrième, je veux dire l'abbé, lui, c'est un pauvre bougre de prêtre. Il se demande, en jurant par tous les saints, pourquoi les juifs se partagent entre eux son argent. Enig, selon lui, c'est un vrai brigand et il mérite sans doute de goûter du fagot. Pourtant, c'est un copain et un brave type. Mais tous les autres, comment sont-ils donc devenus associés à son billet? Vous comprenez ou non? Mais allez expliquer à un abbé ce que c'est que l'honnêteté. Il ne comprendra jamais les faits. Primo, Enig, c'est un frère qui aurait pu tout prendre sans que le moindre coq n'ose se récrier. Deuxio, il y a là un brave garçon qui a en main un papier de moi disant que le billet numéro 6, série une telle, vous comprenez ou non? Lui prêter de mauvaises intentions, à lui, à Birnbaum? Pourquoi? Il réclame de l'argent? Il a des prétentions sur quelque chose? Au contraire, il veut juste qu'on demande la vie d'autrui. Ce que les gens diront, c'est tout. Ce type-là, il a les gens en affection. Il a quelque chose d'humain, vous comprenez ou non? Finalement, les quatre lauréats sont en même temps les quatre perdants. Quatre malheureuses victimes. Mais ce n'est encore rien à côté du partage. Mais si c'est la volonté divine, alors... Maintenant, il faut procéder au partage. Conclusion, nous devons tous nous rendre à la banque. Nous devons en sortir le billet et aller toucher l'argent. Puis nous procéderons au partage et nous trinquerons à notre santé. Mais attendez un peu, doucement, ne pressons rien. D'abord, le billet est sous mandat d'arrêt de la police. Il faut donc d'abord lever la saisie. Mais le curé refuse de bouger tant qu'on ne lui aura pas signé un reçu assurant ses droits. Pour ça, il faut d'abord faire passer le billet du nom du maire au nom de l'abbé et de mon alter ego. Or, le maire ne veut rien entendre et prétend qu'il n'a rien à voir avec toute cette histoire de billets de loterie. Et il n'a pas tort, le bougre. Comment voulez-vous que je donne l'ordre de restituer un billet sous séquestre qui gagne 75 000 si j'en ignore le propriétaire légal? Au début, on m'a dit qu'il appartenait à Birnbaum et à Jacob Joseph. Ensuite, on m'a rapporté qu'il s'agissait de Enig et de l'abbé. Demain, il va sortir de terre de nouveaux Enig et de nouveaux curés. Comment devrais-je agir si chacun d'entre eux se met à me réclamer les 75 000? Soyez sérieux, les enfants. Comment voulez-vous que je trouve des sommes pareilles? Je ne suis pas Brodsky, moi. Vous comprenez ou non? On a mis des avocats sur le terrain. Les avocats, voyez-vous, c'est comme les médecins. Chacun dit juste le contraire de son confrère. L'argent, ils le prennent et les conseils, ils les donnent, mais chacun le sien. L'un d'eux soutient que le maire est autorisé à remettre le billet à qui bon lui semble. Un autre estime que le maire n'a aucun pouvoir en ce domaine. Le troisième est d'avis que le maire a l'obligation de remettre le billet à quelque autre, à moins de se voir menacé d'un procès pour refus de restitution de billets de loterie. Le quatrième déclare que le maire doit renoncer à tout droit légal et tacite sur le billet, de façon à permettre à l'affaire d'avancer. Un autre s'insurge. Sûrement pas. Si le maire renonce, alors le billet demeurera sans propriétaire en titre et nous allons à l'impasse et on lui fera un procès monstre. Un nouveau membre du barreau affirme. Au contraire, c'est justement si le maire refuse de renoncer à ses droits qu'on va au procès monstre. Un avocat de troisième rang demeure sceptique. De toute façon, le maire va se ramasser un procès sur la tête. Et si vous me demandez mon avis à moi, je crains fort que monsieur le maire a déjà un fameux dossier sur le dos. Non seulement on lui casse les pieds du matin au soir, mais encore il doit se taper la route de la grande ville une fois par semaine pour consulter des tas d'avocats qui lui prennent son argent et lui donnent des conseils sur la façon de se débarrasser de cette bombe à retardement. Je vous le dis, ça fait pitié. Quelle honte ! On prend un honnête homme, un brave type qui ne ferait pas de mal à une mouche et on lui met une charge explosive sous le nez. Et vous savez pourquoi tout ça ? Parce que de braves gens sont intervenus pour essayer de bien faire. Vous comprenez ou non ? Dites, vous n'auriez pas, par hasard, une petite bombe à re... Oups, je veux dire une cigarette ? En bref et en court, où en étais-je déjà ? Ah oui, à la bombe sous le nez du maire. Alors vous vous demandez si elle va exploser ou non ? Eh bien, non. La charge est bien là dans l'attente. Le maire se rend chaque semaine en ville et consulte les avocats. Ceux-ci prennent de l'argent et donnent des conseils. Le premier dit « comme ceci », le second « comme ça », le troisième « ni comme ci, ni comme ça », juste le contraire. Comment tout ça va finir ? Dieu seul sait. Cela dépasse l'entendement humain. Vous suivez ou non ? En attendant, qui c'est qui gît 9 toises sous terre ? Jacob Joseph. Toute la ville, que dis-je, le monde entier me montre du doigt. Voilà les 75 000 en marche. Je dois freiner mes affaires. Je n'ai pas même 3 roubles en poche. Pire encore que par le passé. Ma femme a honte de sortir au marché. On la dénomme la grande dame. Le Shabbat à la synagogue, on a entonné un drôle de cantique en mon honneur. On a déjà calculé combien je devrais donner à la ville, combien aux pauvres et autres nécessiteux, et combien il me restera. Certains estiment que je vais me faire prêteur à intérêt. D'autres me voient déjà négociant en grains. Les autres prétendent que le mieux serait d'ouvrir un bureau d'affaires. Quoi de mieux qu'un bureau dans notre petit village avec un capital de 75 000 ? Et en argent frais qu'ils disent. C'est moi qui le suis, frais. Et tout ça, voyez-vous, c'est parce que les Juifs de chez nous, ils n'ont jamais vu plus de 25 roubles à la fois. Notre village, il a quelque chose de tout spécial que le diable l'emporte. Ils grouillent de vagabonds qui n'ont rien à faire de leur temps. Alors, ils vont de gauche et de droite et ils disent du mal de tout le monde. Comme ils n'ont pas d'affaires à eux, alors ils s'occupent de celles des autres. Ils s'entassent sur la place publique, à côté de la pharmacie, notre bourse à nous, et ils discutent du bien d'autrui. Ils paniquent de peur que quelqu'un gagne. Et si on perd, alors là, ils revivent. Vous comprenez maintenant quels nuages noirs ont couvert le ciel du village quand on a appris l'affaire des 75 000 ? Depuis ce jour-là, les bouches ne se sont jamais refermées une seconde. On plaisante, on s'agace mutuellement, on se pique la vésicule, on refile des coups de pied dans l'âme de son prochain. Pourquoi ce n'est pas toi qui as gagné ? Et pourquoi pas toi ? Tu en as bien plus besoin que moi, non ? Le pire de tous a fait des calculs savants et a prouvé que j'étais le plus riche bourgeois de la commune. Le gain se monte à 75 000. Ajoutez à ça 6 ou 7 000 pour ma maison. Cela fait 85 000, soit près de 100 000 roubles. Alors, un bonhomme qui possède 100 000, on peut dire qu'il roule sur 200 000, non ? Et ce, pour la bonne raison qu'il n'a pas même les 100 000. Donc, je pèse déjà mes 200 000. Je deviens maintenant le plus gros bourgeois du coin. Il y en a peut-être d'encore plus gros que moi, mais on ne les a pas fouillés dans les poches à eux. Ils ont peut-être moins de fortune que moi, qui sait. Vous comprenez ou non ? Certains d'entre eux n'ont pu contenir leur rancœur. Les malheureux ne pouvaient le supporter. Comment un simple juif de rien du tout se trouvait-il à la tête de 75 000 roubles du jour au lendemain ? Il y a chez nous un vieux célibataire, riche comme Crésus et avare comme Harpagon. Des petits malins ont dépêché chez lui un envoyé spécial du nom de Mandel le Barbu, qui avait pour mission de lui raconter comment Jacob Joseph avait gagné les 75 000. Ça l'a rendu tellement malade qu'on a craint qu'il en crève. Vraiment, ça vous fait mal au cœur. Le malheureux avait perdu la tête. Mais quand il a entendu que mon copain Hennig avait lui aussi sa part dans l'histoire, alors là, ça l'a flanqué complètement par terre. Il a estimé qu'il valait mieux que ce soit l'abbé qui ramasse la mise plutôt qu'un juif de chez nous. Vous suivez ou non ? Et si vous croyez que la famille nous tapait sur l'épaule alors qu'on lui refilait des coups de fouet, cela, s'ils avaient pu, ils vous auraient noyé dans une cuillère d'eau bouillante. Comprenez bien, si j'avais réellement reçu les 75 000 à moi tout seul, ils auraient changé de ton. Ils auraient vraiment témoigné de la sympathie, les proches comme les étrangers. Mais après ce qui s'est passé, c'est tout autre chose. Enfin, rien de grave là-dedans. La famille, elle peut déjà s'offrir un porte-monnaie. Chez Hennig, il y a déjà des mains tendues. Lui, c'est un être vraiment charitable. Attendez un peu qu'il commence à lâcher du lest, vous allez voir ça. Une rumeur circule selon laquelle il aurait déjà débloqué entre 35 et 72 comme dot pour sa pauvre sœur. Il aurait aussi accordé 100 balles pour l'entretien de son vieux papa. De cette façon, le vieux entendrait dire que son rejeton a gagné 60 000 roubles, vous comprenez ou non ? Chez moi, tous les malheureux de la création sont arrivés en courant. Un tel a exposé ses malheurs, l'autre a dépeint sa détresse. D'autres ont commencé à organiser des mariages sur le compte de ce qui allait leur échoir. On prétend que des couples vont divorcer de façon à s'arranger une situation meilleure dans l'avenir. Bon, ça, c'est la famille. Comme on dit chez vous, la famille fait souffrir ses membres. Mais dites donc, vous, dois-je aussi porter dans mon sein toutes sortes d'étrangers ? Quelle est donc ma faute ? Je souhaite aux ennemis de tout le monde qu'ils gagnent comme ça la loterie, vous entendez ? Moi, je n'en peux plus de tous leurs sourires et de toutes leurs flagorneries. Des gens dont j'ignore même le nom viennent prendre conseil chez moi. On a entendu parler de toi, Rabbi Jacob Joseph. Tu es célèbre dans tout le canton pour ta clairvoyance. Non, je n'ai aucune arrière-pensée. Dieu t'a gratifié de 75 000, il n'y a pas de mal à ça. Juste, je venais bavarder un moment. Vous comprenez ou non ? Un type arrive de je ne sais plus quelle ville où le grand-père de ma grand-mère n'a jamais mis les pieds. La porte s'ouvre, un vieux juif entre et pose son sac. « Bonjour tout le monde. »« Oui, bonjour à toi. »« C'est toi le dénommé Jacob Joseph ?»« Pour te servir, en quoi puis-je... »« Ah, c'est bien toi, le fameux Jacob Joseph qui a gagné les 75 000. »« Je suis passé par là exprès parce que de toute façon, j'étais dans la région. »« Quand j'ai entendu parler des 75 000, je me suis dit... » Tu ne peux pas passer par là sans aller voir le prodige qui a gagné les 75 000. N'est-ce pas ? On ne plaisante pas avec 75 000 tout de même. Vous suivez ou non ? Maintenant, allez raconter à tout le monde et son père que Birnbaum veut la vie d'autrui, que vous avez un frère qui s'appelle Hennig, qui vous a planté une arête dans le gosier, qu'une bombe à retardement menace monsieur le maire, sans compter les avocats, le diable et sa suite. Je souhaite à tout le monde une année aussi heureuse que celle qui a précédé les 75 000. Pour moi, c'était le calme complet. À vous dire la vérité, je crains pour ma vie. Je me suis rendu tantôt à la ville chez les avocats. L'un d'eux m'a persuadé de venir prendre le thé chez lui. J'arrive et je trouve là-bas un autre type, un juif à la belle barbe, un livre à la main. Il me salue, se lève, allume une cigarette et éteint la lampe. Et nous voilà tous deux plongés dans les ténèbres. Dommage que vous n'ayez pas plus de temps. Je vous aurais raconté cette histoire-là parce qu'il s'agit d'une histoire dans une autre. Comme on dit chez vous, une blessure sur une plaie, une bosse sur une blessure. Vous comprenez ou non ? En bref et en court, où en étais-je ? Ah oui, à la fin de l'histoire. Enfin, la fin, si on veut. Si vous avez encore le temps, en fait, ça ne fait que commencer. Que dis-je ? Ce n'est pas même le début du commencement. Et à qui la faute ? À moi, pardi ! Quelle faute ? Que diable ! Je ne suis qu'un homme, après tout, un être humain, comme on dit chez vous. Si cette catastrophe est la volonté divine, qui puis-je ? Pourquoi serait-ce ma faute si... Enfin, bon, chut ! Il ne faut pas bouffer le poisson avant les nouilles. Je veux dire, les nouilles avant le poisson. Je crois qu'il vaudrait mieux que je vous raconte l'aventure depuis le début. Non pas depuis le début du commencement, mais depuis le commencement de la fin, enfin, de ce qui semble être la fin. Vous vous souvenez peut-être que nous étions tous tombés d'accord sur le partage. Non que cela se soit fait plus vite que le temps qu'il faut pour le raconter, ça, non. Nous nous sommes pas mal disputés, pas mal calotés. Le curé ne comprend pas pourquoi Birnbaum et moi, nous avons droit à quelque chose. Mon frère Hennig veut que je fasse confiance à son honneur, à sa bonne volonté et à sa droiture. Et mon locataire, Birnbaum, pousse ses hauts cris qu'il veut juste la vie d'autrui. Toutes sortes d'entremetteurs interviennent et trois d'entre eux parviennent à l'accord. Terminé, fini, enlevé, c'est pesé. Donc l'accord stipule... Qu'est-ce que l'accord stipule déjà ? Ah oui, l'accord précise que nous allons conférer tous les quatre, que nous partons de concert pour la grande ville, que nous retirons ensemble le billet et que nous procédons au partage de la petite monnaie « Prends-ci pour toi, je prends ça pour moi. » Et la paix sur Israël et bonjour chez vous. Mais de quoi parlez-vous ? Le billet, pas de doute, il existe. Mais on ne l'a pas en main. Comment ça, pas en main ? On ne peut pourtant pas en nier l'existence. D'accord. Mais si vous avez bonne mémoire, où repose-t-il le billet ? Dans un tiroir de banque fermé à double tour et au nom d'un tiers. Ajoutez à ça l'ordre de saisie de l'officier de police, alors vous n'avez pas grande chance de faire bouger les choses. Que faire ? Avant tout, il faut percer l'abcès et le résorber. Après, on verra. Vous comprenez ou non ? Maintenant, à qui revient l'honneur de faire sortir le pu ? À l'abbé, comme de bien entendu. Mais lui, si vous vous souvenez, il ne bougera que lorsqu'on aura fait passer le billet à son nom. Seulement, après, il sera prêt à piquer. En fait, il n'a pas tellement tort lui non plus. Alors, à qui incombe le devoir de faire passer le billet au nom de l'abbé, de façon à ce qu'il perce l'abbé ? Bravo, à monsieur le maire. Alors nous nous adressons à monsieur le maire en le priant de bien vouloir faire passer le billet et l'abcès percera. Lui, il ressort sa rengaine habituelle. Entre nous, il ne manque pas de sens commun. Qu'est-ce que vous me voulez ? Pourquoi me mêlez-vous à vos affaires ? Nous abondons dans son sens. Vous avez bien raison, mais quoi faire si sans vous, l'abcès ne perce pas ? Moi, j'en ai rien à faire que l'abcès perce ou non. Ce ne sont pas mes oignons. Vous suivez ou non ? Dites, vous n'auriez pas un petit abcès ? Oups, une petite cigarette ? En court et en bref, où en étions-nous ? Ah oui, à l'abcès qu'il faut percer. Conseils à gauche, avis à droite. Conclusion, il faut intenter un procès. Qui dit procès, dit avocat. Et qui dit avocat, dit en route pour la ville. Là commence vraiment l'histoire. À quel avocat s'adresser ? L'un propose un tel. L'autre avance le nom de machin. Dans l'impossibilité de faire autrement, nous prendrons conseil de deux avocats. Mais machin est d'un avis diamétralement opposé à celui d'un tel. Un troisième arrive et les renvoie dos à dos. Un rabbin suggère de s'adresser à un quatrième. Bon, je ne dois pas vous raconter à vous ce que c'est que les avocats. Les avocats, c'est la même engeance que les médecins. Les docteurs et les juristes sont faits pour se disputer sur votre dos. C'est comme les traductions de la Bible Elles disent tout le contraire les unes des autres, c'est bien simple. J'ai un ami qui explique toujours. Qu'est-ce qu'une traduction ? Une traduction, cela consiste tout juste à dire le contraire. Le contraire, c'est l'essence de la traduction. Par exemple, quand l'écriture dit « ainsi parler », la traduction indique « et il parla ». Et si l'écriture dit « à savoir », la traduction dira « c'est-à-dire ». Allez-y comprendre quelque chose. Vous suivez ou non ? L'un des avocats propose que nous envoyions tous ensemble un avis demandant à la banque et au maire d'expliquer pourquoi ils se refusent à nous remettre le billet, ce qui a l'air logique, non ? L'autre proclame que seuls Birbaume et moi sommes en droit d'exécuter une telle démarche. Et ce, uniquement envers le maire, d'ailleurs. L'avis doit lui demander pourquoi il n'est pas prêt à exiger de la banque qu'elle restitue le billet. Ça ne manque pas de logique non plus, ça, hein ? Mais le troisième avocat se récrit. Quoi ? Nous sommes parrains de la banque maintenant ? Elle nous connaît ? Elle a fait affaire avec nous ? Le papier, c'est Birnbaum, et Birnbaum seul qui doit le rendre au maire, et rien qu'au maire. En quoi la banque est-elle coupable de ce que c'est justement Birnbaum qui lui a demandé de mettre le billet au nom du maire ? Il ne manque pas de tête, celui-là non plus, hein ? Arrive le quatrième et déclare que ni Birnbaum ni moi ne sommes en droit de nous adresser au maire. Selon lui, cela regarde l'abbé et mon frère, énigme, je veux dire. Bonne idée, non ? Un autre intervient et annonce qu'il ne faut surtout pas intenter un procès. Voici sa démonstration. D'où provient le fait que la banque a fait passer le billet au nom du maire ? Cela s'est fait à l'instigation de Birnbaum. De qui ce dernier tenait-il le billet ? De Jacob Joseph, moi-même, pour vous servir. D'où l'avais-je, moi aussi ? De mon alter ego, de Hennig. Qui le lui avait prêté, enfin vendu à Hennig ? L'abbé. Hennig dit « vendu », l'abbé prétend « prêté ». Bon, cause perdue. Le mieux serait que l'abbé se porte plaignant auprès de Hennig, Hennig de moi-même, et moi de Birnbaum, et Birnbaum de qui ? Mais de la banque, évidemment. L'ennui, c'est que la banque prétend ne pas connaître Birnbaum et avoir affaire uniquement au maire. Alors que Birnbaum se porte plaignant contre le maire, puis que le maire attaque la banque. Et que faire des craintes du maire au sujet du procès qu'on risque d'intenter contre lui ? Eh bien, Birnbaum remettra au maire un papier, une attestation qu'on appelle ça. Moi-même, je ferai pareil vis-à-vis de Birnbaum. Mon frère Hennig m'en remettra une aussi, et l'abbé donnera la sienne à mon alter ego. Alors, que pensez-vous de cette solution ? Vous avez déjà vu quelque chose de plus réussi que ça ? Mais voilà un nouvel avocat qui pointe le nez et remet tout en question. Et qui dit que l'affaire commence vraiment par l'abbé ? Peut-être existe-t-il quelque part dans un grenier une bonne âme qui va fournir des documents et des témoins attestant que le billet lui appartient. Les enfants, où est mon billet ? Et dans ce cas, la plainte ne portera pas seulement sur le billet, mais bien sur les 75 000. Et contre qui la plainte ? Contre le maire, ni plus ni moins. Maintenant, le maire pourra toujours porter plainte contre Birnbaum, Birnbaum contre moi, moi-même contre Hennig, et Hennig contre l'abbé. Il était une fois, on y va encore une fois. Vous suivez ? Conclusion, il faut changer d'avocat. Qui on trouve ? Le grand Copernicum. Pas suffisant. On s'adresse à Wiesel Bouche d'Or. Que vous dirais-je ? Nous nous sommes juristés le crâne et avocatés la cervelle en rond, d'un avocat à un juriste et vice-versa. Dites, vous ne pouvez pas me passer un petit avocat ? Oups, une cigarette. En bref et en court, où en étais-je ? Ah oui, au juriste. Bon, grâce à Dieu, ces éminents personnages sont tombés d'accord. Après tout, ce ne sont pas des avocats pour rien. Birnbaum et moi, tous deux ensemble et chacun à part, nous signerons devant notaire une déclaration selon laquelle nous renonçons à tout droit sur le billet. À savoir, nous n'avons aucune part dans l'histoire. L'attestation stipulerait en outre que nous avons reçu le billet de la main d'Enig, lequel l'aura emprunté ou acheté à l'abbé. Tout ça de façon à ce que moi-même je le mette en gage, ce que j'ai fait justement chez Birnbaum. À vrai dire, c'était là la vérité vraie. Dites donc, sans philosopher, sans pinailler, sans renacler, y a-t-il quelque chose de mieux que la vérité vraie ? Or, il se trouve que cette vérité-là, personne n'y avait pensé avant. Mais attendez un moment. Qu'entendons-nous par « tous les deux, Birnbaum et moi » ? Comment voulez-vous que nous donnions nous-mêmes à autrui un fouet pour nous battre avec ? Vous oubliez notre part dans le partage. Que ferons-nous si on nous dit d'aller nous faire voir ? Peut-on compter sur la droiture de mon frère et sur la loyauté de l'abbé ? Leur signature sur un papier et les verres trinqués, tout ça, c'est vanité des vanités. Le papier, ça ne vaut pas un copec, et le verre, ça ne pèse pas bien lourd, même avec un peu d'alcool dedans. Ce dont nous avions besoin, Birnbaum et moi, et chacun à part, c'était d'une bonne garantie pour la part qui nous revenait de droit. Vous comprenez ou non ? Et c'est là que la noce a véritablement commencé. Des garanties ? Non seulement on prend de l'argent des autres, mais en plus on veut des garanties maintenant. Alors ça, ça nous a brisé le cœur. Comment se peut-il que notre intégrité ait conduit les autres à une telle bassesse ? Nous aurions pu ramasser à nous deux les 75 000 et aucun coq n'aurait trouvé de quoi crier. « Ha ha, vous avez des prétentions, s'écrit mon alter ego. On vous doit des remerciements, on doit vous pincer la joue. » Alors là, je ne me suis plus dominé. Un mot ici, un mot là, une gifle à gauche, une autre à droite, comme c'est l'usage entre frères. En bref, nous avons obtenu gain de cause. Je veux dire que nous allions obtenir des garanties. Un reçu, vous parlez. Un reçu, ça ne vaut pas plus que des ciseaux en sucre. C'est dommage pour le papier. Non, de l'argent comptant. Comme disait ma grand-mère, le meilleur des soufflés au fromage, c'est un bon morceau de viande. Alors, où va-t-on chercher de l'argent comptant quand cela manque chez tout le monde ? Enfin, presque, à part chez les Brodsky. Mais tout ça, c'est des paroles creuses. Tant que je ne verrai pas mes garanties devant mon nez, je ne signe pas. Quelle garantie je désire ? N'importe laquelle, mais qu'on ne dise pas que Jacob Joseph s'est comporté en bourrique. Bon, ça, c'est une chose. Quant à mon associé, Birnbaum, je veux dire, il continue avec ses avis d'autrui. Il est prêt à donner un récépissé, comme il dit, mais à condition qu'il y ait autrui. Il se fiera à l'avis d'autrui. Je lui demande, « Encore tes autrui, mais nous avons fixé d'un commun accord. Alors, qu'est-ce que tu as à faire de tes autrui ?»« Comprends-moi bien, qu'il me répond, je veux l'avis d'autrui. » Peut-être qu'autrui trouvera que je n'ai droit à rien. Pourquoi prendrais-je de l'argent qui ne me revient pas ? Vous comprenez ou non ? Moi je braille, des garanties, et lui réponds par des autrui. Les garanties, selon lui, ça doit venir après. D'abord, il faut demander l'avis d'autrui. Toujours ces autrui. J'en ai plein le crâne de ces autrui. Des garanties, ça vaut bien mieux que des autrui. Bon, où en étais-je déjà ? Ah oui, aux garanties. Figurez-vous que nous avons reçu toutes les garanties nécessaires avec signature de notaire à l'appui. Tous les documents ont été signés en bonne et due forme et il n'y avait plus qu'à aller chez les avocats. Toute une paperasse a signé. Ça veut dire des voyages à la ville 2 fois par semaine, des frais d'hôtel et autres dépenses. Sans compter les puces de ces garnis qui s'intitulent « hôtel ». On vous fait bouffer des cafards frits et on appelle ça du rôti. On sue à grosses gouttes sous le soleil d'été, on use les pavés des rues à force de marcher dessus. Et pourquoi tout ça ? Pour 75 000 malheureux roubles. Surtout qu'on aurait bien envie d'en voir la fin de ces 75 000 balles. Comme dit ma femme, mieux vaut un copec de cuivre le matin qu'un rouble d'or dans un rêve nocturne. Tes 75 000, là, ils m'ont flanqué 75 trous dans le cœur. Si c'était juste une question d'honneur, je t'aurais pardonné tout ça, vois-tu ? Oh, toi, tu es née femme et tu mourras femme. Mais dans mon fort intérieur, je sens bien qu'elle a raison. Parce qu'au fond, qu'est-ce que ça peut me faire, tout ça ? Je ne peux même plus me rendre au marché tranquille. Je ne me suis fait que des ennemis. Tout le monde est jaloux de moi. Tout un chacun a peur que je ne ramasse la forte somme. Pourquoi Jacob Joseph a-t-il mérité tout ça? Vous comprenez ou non? Qu'est-ce qui est dur à comprendre? Ils m'ont tous sucé le sang à mort avant que l'abcès ne crève. Les yeux me sortaient des trous lorsqu'on a enfin vu le bout du billet. Mais si vous croyez qu'on a mis le grappin dessus aussi vite que ça, vous vous trompez lourdement. Il a fallu d'abord attendre un mois de quarantaine, de crainte que quelqu'un ne se désiste. J'ignore si je suis parvenu à dormir une seule nuit pendant tout ce mois-là. J'avais constamment des cauchemars affreux. Je m'entendais hurler « Cipora, je vole dans l'espace !»« Quel vol et quel espace dans ta tête, mon pauvre ami ! Allez, crache trois fois et raconte-moi quel songe tu as songé comme ça !» Je songeais que je volais dans l'espace, que j'avais des ailes, et toutes sortes de créatures bizarres volaient autour de moi, toutes sortes de serpents et de scorpions qui ne voulaient que me mordre et me piquer. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Une autre, j'ai rêvé que j'étais assis sur un gros sac de caoutchouc rouge, tout gonflé, sur lequel s'étalait le nombre 75 000. Nous sommes un Shabbat dans l'après-midi, un jour d'été. Vous suivez ou non? Toute la ville, hommes et femmes, s'adonne à la promenade shabbatique. Les gens s'arrêtent un moment et me regardent avec des yeux, mais des yeux! Et soudain, boum, une explosion. C'est le sac qui a sauté. Je hurle de toutes mes forces. Cipora, il a crevé! Qui a crevé? Que tous tes ennemis crèvent! Comme d'habitude, elle donne la bonne interprétation au rêve, en bonne épouse qu'elle est. Bon, en bref et en court. Où en étais-je? Ah oui, au retrait du billet. Quand il a été question de le retirer, une nouvelle affaire a commencé. Qui irait le faire? De son propre point de vue, chacun se portait volontaire. Mais de là à faire confiance aussi aux autres, la tentation, n'est-ce pas? On parle bien là de 75 000, ne l'oublions pas. Finalement, je ne me fie pas à toi, tu ne te fies pas à moi, mieux vaut qu'on y aille tous ensemble. Qui ça, tous ensemble? Tous les 10. Comment ça, tous les 10? Eh bien, faites le compte vous-même. Moi et d'un. Birbaum et de 2. L'abbé et de 3. Mon frère, Enig, je veux dire, et de 4. 3 avocats, l'un qui représente l'abbé, le second, Enig, et le troisième, Birbaum et moi, et de 7. Ajoutez à ça les 3 entremetteurs qui sont intervenus pour parvenir à l'accord, cela fait 10 au total. Tant de monde, c'en était même un peu gênant. Mon frère, Enig, gesticulait de tous côtés sans comprendre le pourquoi du comment. Selon lui, il aurait pu aller tout seul avec l'abbé. Apparemment, il était vexé de ce qu'on mette en question sa bonne foi et la loyauté du prêtre. Mais ça lui a servi comme la neige de l'an dernier, car chacun avançait un argument différent et tout le monde avait raison. Moi, par exemple, je soutenais que c'était de mon devoir d'y aller en tant que frère. Non pour des raisons d'honneur, mais plutôt parce que l'usage chez les frères, c'est de se taper dessus. Birbaum prétendait que si 2 frères n'avaient pas confiance l'un en l'autre, alors il se sentait lui-même totalement libre de ne pas s'en remettre à la Providence, vu qu'il ne faisait pas partie de cette curieuse famille. Il ajoutait qu'il avait fait assez de sacrifices comme ça. On ne pouvait guère le blâmer. Les 3 avocats se considéraient comme indispensables du fait qu'après tous les débats, toute la paperasserie leur incomberait. Restaient les entremetteurs. Ceux-là estimaient leur présence obligatoire parce que tout le monde les traitait comme des chiens battus. Ils prétendaient avoir des diplômes de chat crevé décernés par la pseudo-université de Yupis. Ils précisaient en outre qu'ils savaient tout du montant des honoraires que payait la bourse dans ces cas-là. Ils appelaient ça la carapace, la couverture, le montant à recevoir juste après la signature des contrats. Malgré tout, nous sommes convenus de ne pas arriver tous ensemble, mais chacun son tour. Mais comme tout le monde voulait entrer le premier, nous nous sommes tous retrouvés ensemble devant la porte et nous avons attendu une bonne heure avant qu'on veuille bien nous ouvrir. Alors, comme un seul homme, nous sommes allés chercher le billet. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est une banque. La banque, elle a horreur de l'empressement. Elle a tout son temps. Elle se moque éperdument de Jacob Joseph, du billet, des 75 000, des abbés, des énigmes, des birbaumes, des entremetteurs et de tous les malheureux qui veulent ramasser une miette ou deux. Elle ne s'en gratte pas même l'oreille gauche. Un employé s'allume une cigarette. Un autre se plonge dans une longue conversation. Le troisième boit sa tasse de thé. Le quatrième taille un crayon. Un autre encore enfonce la tête dans un journal et ne la relèverait pas même pour voir passer une fille. Nous allons de ci et de là, nous bâillons, nous tous sautons, nous voulons enfin arriver au but. Mais le responsable des comptes courants est absent. Quand il finit par arriver, c'est le caissier qui a disparu. Le caissier revient, le directeur n'est pas à sa place. Où est le directeur? Sauf notre respect, il dort encore. Le gérant de la succursale gît à 7 heures sur sa couche. Il n'en a rien à faire, lui, des billets de Jacob Joseph, des 75 000, des abbés, des birbons, des énigmes, des pauvres entremetteurs qui aimeraient bien gagner une miette ou deux. Je me demande quel peut bien être le salaire du directeur. Peut-être 6 000 balles, et pourquoi pas 8 ou 10. Le pauvre, il travaille si dur. Personnellement, moi, je serais prêt à trimer pour la moitié, pour le tiers même. Et je me serais acquitté de mes fonctions au moins aussi loyalement que lui. Telles étaient mes pensées au moment crucial. Il se peut d'ailleurs qu'au moment crucial, je ne penserais à rien du tout. Vous comprenez ou non ? Et soudain, le directeur fait son apparition. Comme de bien entendu, nous lui tombons tous dessus. Il a eu un geste de recul. Alors les trois avocats s'avancent avec l'abbé et ils lui remettent les documents. Vous suivez ou non ? Alors il s'enferme dans son bureau pour compulser les papiers. Et nous d'attendre, et toujours d'attendre. Et finalement, nous avons gain de cause. Le directeur ressort, accompagné d'un gros bonnet de la maison. Sauf votre respect, il nous présente son derrière et se met à parler et à épiloguer. Peu lui importe les billets, Jacob Joseph, les 75 000, les abbés, les énigmes, les birbaumes, les entremetteurs qui veulent grogner une miette ou deux. En fin de compte, il se retourne vers nous. Voici tous vos papiers, adressez-vous au caissier. Il ne pouvait pas le dire plus tôt, je vous le demande à vous. Les papiers en main, nous fonçons tous chez le caissier et nous abandonnons le tout sur son comptoir. Si vous croyez que la fin approche, détrompez-vous, ça ne fait que commencer. Le caissier est occupé. Il compte des billets de banque. Des billets de 100, de 500, des liasses entières, des pièces d'or, des montagnes de pièces d'or. La table en est pleine. Combien peut-il y avoir là ? Ah, si j'avais pu posséder le 10e de ce qui roulait sur ce comptoir, j'aurais été le plus heureux des hommes. Telles sont mes pensées au moment crucial. Et peut-être qu'au moment crucial, je ne pense à rien du tout. Le caissier continue à compter son or et ne nous adresse pas même un regard. Il ignore jusqu'à l'existence du billet de Jacob Joseph, des 75 000, des abbés, des énigmes, des birbaumes, des entremetteurs qui aimeraient bien se mettre une miette ou deux sous la dent. Les pièces d'or lui glissent entre les doigts en émettant un doux son cristallin aurifère, un son d'or, un bruit d'or, vous saisissez ou non ? Bon, en bref et en court, où j'en étais déjà ? Ah oui, aux pièces d'or. Il achève de compter sa fortune, relève le nez dans notre direction et s'empare des documents. Il commence à les palper comme on compte des billets de banque en faisant glisser les doigts d'un geste insolite. Puis il ouvre un tiroir dont il sort une assez grosse enveloppe. Il en déchire un coin et en sort le billet, le vrai billet, je veux dire, tout en demandant « Qui est le récipiendaire ?» 10 mains se tendent vers lui d'un coup. Le caissier s'insurge. « Ah ça, non ! Je ne peux pas remettre le billet à tant de mains à la fois. Choisissez un représentant. » Cela peut vous étonner, mais nous avons choisi notre homme, le plus âgé des trois avocats. Le doyen prend délicatement possession de l'objet, comme on porte un nouveau-né une fois le cordon coupé. Il le promène tour à tour sous les yeux de l'abbé, de Hennig, de Birbaum et de moi-même, nous deux en même temps, de façon à ce que chacun puisse authentifier la pièce. L'abbé déclare qu'il a reconnu de loin tout de suite. Il prétend qu'il existe un signe distinctif. Lequel ? Non, ça, il se refuse à le dire. Hennig, mon alter ego, mettrait sa main au feu que si on le réveillait à 2 heures du matin pour le lui montrer, il le reconnaîtrait du premier coup. Vous suivez ou non ? Or, Birnbaum et moi, justement, nous n'identifions pas tellement le billet. Nous examinons le numéro de série, le 12. C'est l'essentiel, non ? De là, nous avons pris le chemin de la Banque nationale pour toucher les bonbons, les 75 000. Nous y allons tous ensemble à pied, bien que ce soit en montée. Le doyen des avocats tient le billet à deux mains, sous les regards attentifs de la collectivité, de crainte que le papier ne s'envole ou qu'on l'accuse lui-même de le troquer contre un autre. Entre nous, de la part d'un pareil billet, on peut s'attendre à tout. Partis à 10, nous arrivons à 20. D'où sortent les autres ? Vous voulez le savoir ? C'est bien simple. D'abord, des connaissances à moi se trouvent par hasard ce jour-là dans la grande ville. Quand ils nous voient passer avec notre billet et entrer dans le bâtiment public, ils se joignent tout simplement à nous pour voir comment les gens ramassent le gros lot. C'est pas tous les jours qu'on voit des choses pareilles, n'est-ce pas ? En bref et en raccourci, nous formons une belle procession et nous sommes très bien reçus. Le planton de garde a bien pris peur un moment en voyant tant de Juifs se diriger dans sa direction avec leur curé, mais finalement, il nous fait bon accueil. Il nous prie juste d'entrer les uns après les autres. Lorsque nous trouvons le guichet pertinent et que nous expliquons le but de notre venue, on nous conduit chez un employé dont le crâne luit comme une jatte de lait et on lui remet le billet en prononçant des paroles dont le sens m'échappe complètement. Le crâne d'œuf qui siège dans sa cage derrière des barreaux lève sur nous un regard furibond dessous ses lunettes et continue à s'occuper de ses propres affaires. Il tient à la main un canif avec lequel il gratte les pages d'un livre avec frénésie. Lui, il gratte et gratte encore, et nous, nous le regardons gratter, le mal au cœur et le vague à l'âme. Tous les autres visiteurs nous scrutent des pieds à la tête. Pendant ce temps, d'autres employés comptent des liasses et des liasses de billets, des monceaux, des montagnes d'argent. Le bruit cristallin de l'or et son doux rayonnement nous fait tourner la tête. Moi, je me demande, mais qui donc a inventé cet argent pour lequel les gens sortent de leurs gonds, se cognent la tête contre les murs et se dévorent réciproquement? À cause de lui, il n'y a plus ni frère ni sœur, ni père ni enfant, ni voisin ni ami, plus rien. Plus rien ne compte que l'argent, l'argent et rien que l'argent. Telles sont mes pensées au moment crucial, et peut-être même qu'au moment crucial, je ne pense à rien du tout, vous comprenez ou non ? Et l'autre qui continue à gratter et qui se moque bien du billet de Jacob Joseph, des 75 000, des abbés, des Hennig, des Birbaum, des entremetteurs qui aimeraient bien gratter eux aussi une miette ou deux, et puis du monde entier avec. Maintenant, toute chose a une fin. L'employé cesse de gratter, replie la lame du canif et plonge l'objet au fond de son gousset. Il sort de sa poche un joli mouchoir de couleur noire et se mouche dedans. Puis il s'empare du billet comme si c'était un vulgaire bout de papier et compulse un gros registre. Ses yeux passent du billet au livre de compte et du livre au billet. Je me dis par moi-même, « Tu imagines sans doute que c'est un faux billet, hein ? Allez, mon vieux, gratte et gratte, renifle et souffle. Il est aussi vrai que toi et moi. » Tout d'un coup, il rejette le billet dans notre direction et il prononce une phrase. Oh, cette phrase, je m'en souviens comme si c'était hier. Qui vous a raconté que ce billet a gagné 75 000 ? Vous comprenez ou non ? Qui nous a raconté ? Que pensez-vous de ça, vous ? Nous nous étonnons. Comment ça, qui nous a raconté ? Mais c'est le billet lui-même qui nous l'a dit, numéro 2289, série 12. C'est bien exact. Le billet 2289, série 12, a bien gagné 75 000. Mais le vôtre, c'est le 2298, série 12. Petite différence. Malinkaya, Chipskaya. Que dites-vous de la nouvelle, vous ? Au début, nous sommes restés là, stupéfaits. Puis, nous nous sommes dit, soit il est fou à lier, soit nous sommes complètement dérangés, soit nous vivons un rêve. Nous nous regardons tous les uns les autres, sans même penser à jeter un coup d'œil sur le billet. Et là, c'est bien vrai, numéro 2298, série 12. Que vous dirais-je encore, mon bon ami ? Je ne puis pas même vous raconter le dixième. Vous ne pouvez pas même imaginer comment décrire. Personne au monde ne saurait retracer la scène qui se déroulait dans cette banque. Nous demeurons tous muets. Nous nous regardons les uns les autres. Nos visages ont l'apparence de ceux de fauves et de bestiaux. Je veux dire que nous sommes des bêtes déguisées en hommes. Si le regard avait la force de déchirer, nous ferions de la charpie de nos prochains. Mais dans le fond, quel mal y a-t-il là ? Nous faisons tous un rêve, le songe des 75 000 roubles. Il n'y a pas là de quoi se suicider. La vie n'a donc de sens que par l'argent ? Bande de fous ! Vous comprenez ou non ? En fait, ma colère porte surtout sur mon compère Birnbaum. Tous les autres peuvent accuser quelqu'un d'autre de la bévue. L'abbé, par exemple, s'en prend à mon alter ego, Hennig. Lui, Hennig, jure ses grands dieux qu'il n'a jamais pensé aux 75 000 balles. Il ne se serait mêlé de rien si moi, Jacob Joseph, je ne lui avais pas envoyé un télégramme de félicitations. Il me lance. Pour ça, tu sais lire le journal, toi, mon frère. Et pourquoi tu ne l'as pas lu toi-même ? Dis ! C'est toi qui as provoqué toute l'histoire. Le billet était dans ta poche à toi. Tout ça, c'est de ta faute. Vous entendez ça ou non ? D'abord, quand les 75 000 existaient encore, ils ne voulaient pas même entendre parler de moi. Et maintenant que la montagne a accouché d'une souris, c'est de ma faute. Mais qu'importe, que Jacob Joseph serve de bouc émissaire, pourquoi pas ? Bande de bestiaux que vous êtes ! 20 fois les papiers vous sont passés sous le nez avec les reçus et les récépissés. Partout, on pouvait y lire que le billet portait le numéro 2298, série 12, alors que le gagnant s'appelait 2289, série 12. Comment n'avez-vous pas remarqué que le 9 était avant le 8 ? Et quand le billet vous est tombé entre les mains, vous n'étiez pas trop petit pour aller voir dans le registre qui ramassait le lot des 75 000 ? Le numéro 2298 ou le 2289. Sans compter que vous n'avez pas lésiné quand il s'est agi de galoper à la banque et tous ensemble encore. Tout ça parce que vous pensiez ramasser de l'argent, hein ? Vous comprenez ou non ? Mais en fait, ma colère porte surtout sur mon compère Birnbaum. Vous l'auriez vu debout, à l'écart, comme si tout cela ne le regardait pas, comme s'il n'était pas impliqué dans le coup. 10 minutes avant, on n'entendait que lui. « Autrui ! Autrui ! Je veux la vie d'autrui !» Maintenant, il boude dans son coin comme un mouton innocent, malheureux et inoffensif. Ça m'a fait un de ses coups au cœur. Je me suis dit « Tiens, je vais lui montrer ce que ça coûte de sucer le sang des autres. » Vous vous souvenez du jour du 2 mai, quand je me tenais debout à genoux devant lui et que je le suppliais de me rendre mon billet ? Alors je m'approche de lui. « Monsieur Birnbaum, voici l'occasion de vous en remettre à autrui. La banque grouille d'employés, allez-y. »« Quoi ? Vous ne voulez plus la vie d'autrui ? Il n'y a plus d'autrui ?» Tout le public se frotte les mains de satisfaction. Pourquoi ? Ça, je ne saurais dire. Soit parce que j'en vois Birnbaum quérir la vie d'autrui, soit parce que, des 75 000, il ne reste plus un copec, et cela leur réchauffe l'âme. Moi, vous m'entendez ou non ? L'argent, je m'en moque bien. Je ne lui accorde pas la moindre pensée. Qu'il parte en fumée. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'au moment où les gens avaient juste l'impression que les 75 000 allaient tomber entre les pattes de Jacob Joseph, alors le dénommé Jacob Joseph avait droit au titre de Rabbi Jacob Joseph. Mais maintenant que Jacob Joseph s'est fait... disons rouler, sauf votre respect, au lieu de ramasser les 75 000, alors le voilà enterré, le dénommé Jacob Joseph. Bande de lépreux, que le diable vous emporte, vous et vos pères et mères. on se croirait au temps du Vaudor. Oui, pour les 75 000, non, pour les 75 000. Quelle importance! Vous entendez, monsieur Cholet-Malérem? Vous pouvez vous enorgueillir de vos youpins devant le monde entier. Le monde, il est dégoûtant, fourbe et imbécile. Mais reconnaissez-le, les oreilles vous bourdonnent, le plancher se dérobe sous vos pieds et vous saute à la figure, et le chapeau vous en tombe de la tête, hein? Mais ne m'en veuillez pas trop de vous avoir cassé les pieds comme ça. Allez, portez-vous bien, et Dieu fasse que les affaires aillent mieux. Écrit en 1902.